Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Au départ, il y a une bonne nouvelle. En 2017, les recettes fiscales ont été plus importantes que prévues. 4,3 milliards d'euros supplémentaires. La France, comme ses voisins européens, bénéficie d'une bonne conjoncture économique l'an dernier et les choses s'annoncent plutôt bien pour 2018. Mais comme souvent, c'est au moment de partager le gâteau que les ennuis surviennent. Il y a ceux qui voudraient que cette somme serve à réduire le niveau de la dette et ne serve qu'à cela. Ceux qui considèrent qu'après des années d'efforts, les Français auraient bien le droit à quelques coups de pouce en matière de pouvoir d'achat. Ceux pour qui l'investissement doit être la priorité, ceux qui, prévoyant, préféreraient qu'on mette les 4 milliards de côté pour quand la crise reviendra. Alors, que faire de la cagnotte ? Eh bien, c'est à cette question que nous allons tenter de répondre ce soir en compagnie de 4 invités, 4 journalistes économiques. Anne de Guigné, bonsoir. Vous êtes journaliste au Figaro. Romaric Godin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste économique à Mediapart. Renaud Honoré, bonsoir.
Bonsoir.
Vous, c'est le journal Les Échos. Et Nicolas Corry, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste pour le site Les Jours. Alors, je voudrais qu'on démarre avec vous quatre sur ces chiffres qui ont été annoncés par l'INSEE. C'était à la fin du mois de février. Croissance plus importante que prévue en 2017, 2% au lieu de 1,7 et 4 milliards 3 d'euros supplémentaires par rapport à ce que prévoyait la loi de finances. D'abord, est-ce qu'on sait à quoi est dû ce surplus de recettes fiscales? Est-ce que c'est déjà l'effet de la politique du gouvernement d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron, ou bien est-ce que c'est avant tout lié à une conjoncture favorable qui dépasserait les seules frontières françaises? Renaud Honoré.
Ah bah c'est vraiment purement la conjoncture qui explique ça. De toute façon, les mesures du gouvernement, elles n'entreront vraiment en vigueur que pour l'année 2018. Et donc là, effectivement, c'est la traduction très concrète de l'accélération de la croissance, qui n'était pas du tout prévue à ce niveau-là, en tous les cas, il y a encore 6 mois auparavant, parce que c'est vrai qu'on parle de cagnotte fiscale. Je vous rappelle que les débuts du quinquennat Macron sont marqués notamment par le rapport de la Cour des comptes en juin dernier, qui prévoyait au contraire qu'on aurait beaucoup de mal à rester sous les 3%. Donc c'est pour dire à quel point, effectivement, l'accélération de la croissance a pris un peu tout le monde au dépourvu, et on se retrouve effectivement avec des recettes fiscales bien supérieures à ce qui est attendu.
Vous avez tous autour de cette table été pris au dépourvu, Romaric Godin, par cette accélération de la croissance?
Ah ben oui, la croissance n'était pas du tout prévue à ce niveau, mais c'est vrai qu'il y a une conjoncture internationale et européenne qui a été très favorable, avec une accélération notamment de nos principaux partenaires commerciaux. Et puis il y avait un effet de base aussi, parce que la croissance française en 2016 a été particulièrement faible. Et ça, évidemment, ça a expliqué, pas tout évidemment, mais une partie de la bonne tenue de la croissance française, et puis surtout avec un bon investissement des entreprises. C'est l'investissement des entreprises qui principalement tire la croissance cette année.
Anne de Guigné.
Enfin, l'année dernière.
Oui, mais tu sais, on voit bien que les exercices de conjoncture sont très compliqués un an à l'avance. Je crois que même la Banque de France en 2016 prévoyait que 2017 serait compliqué. Donc honnêtement, c'était très difficile à prévoir. Voilà, le seul indicateur rationnel, c'est de dire que la croissance dans la zone euro était déjà repartie. La France avait un petit décalage, donc elle a suivi avec 1 ou 2 ans de décalage. Elle est toujours un peu en dessous de la zone euro, mais elle a fini par enfin rebondir comme tous ses partenaires.
On voit bien en effet, Nicolas Corry, que c'est toujours compliqué d'avoir des prévisions qui se vérifient dans les faits. Il y a toujours un décalage. Alors soit c'est un petit peu moins, soit c'est un petit peu plus. Mais là où c'est important, c'est que c'est aussi sur ces prévisions-là que sont bâtis les projets de budget. Le projet de loi de finances, il était bâti sur une croissance de 1,7. Donc c'est ce qui permet justement, quand il y a un décalage, d'engranger ou au contraire de se rendre compte qu'il n'y a pas suffisamment d'argent.
Oui, effectivement, les prévisions en ce qui concerne le futur sont toujours compliqué à faire, on le sait. Et d'ailleurs, après, ce qui est assez intéressant quand on voit effectivement ce débat qui naît aujourd'hui sur la cagnotte, et quand on le replace dans la longue durée et qu'on voit ce qui s'était passé au début du quinquennat, et donc ce rapport de la Cour des comptes qui tout d'un coup alerte en juillet 2017 en disant il va y avoir des dérapages. Alors, est-ce que la Cour des comptes a joué son rôle en disant, effectivement, en noircissant le tableau? Peut-être, on ne sait pas trop, effectivement, à rebours, quand on voit aujourd'hui les bonnes nouvelles de cette croissance. Donc c'est toujours, effectivement, quelque chose qui est effectivement très compliqué à faire, c'est-à-dire de faire cet exercice, de concocter un budget des mois à l'avance. Alors, il y a un débat autour de cette somme. Il y a déjà un débat qui est d'ordre sémantique. C'est-à-dire, manifestement, quand on parle de cagnotte aujourd'hui, ça pose un certain nombre de problèmes, en tout cas au niveau politique. Est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi parler de cagnotte, c'est quelque chose d'un peu compliqué, en tout cas qui pourrait être inapproprié, Anne de Guigné?
En fait, quand on parle de cagnotte, on dit que le déficit va être un peu réduit. Donc, c'est voilà, dans un pays extrêmement endetté, on a 2 200 milliards de dettes, un déficit au cours de 80 milliards. C'est voilà, donc toute l'idée, évidemment, c'est un peu mieux que prévu. Mais cagnotte, ça donne une idée de positif. Non, on a un peu moins de négatif. Donc là, je pense que le débat sur la sémantique, il est là-dessus. Après, c'est un débat politique. C'est normal que les politiques s'en emparent. C'est, évidemment, le débat du pouvoir d'achat, il est extrêmement sensible. Mais d'un point de vue strictement économique, évidemment, on ne peut pas parler de cagnotte quand on est moins de déficit.
C'est-à-dire quand on a plus, par exemple, plus de 70 milliards d'euros de déficit, c'est compliqué de se dire, voilà, l'idée de cagnotte fait qu'on pourrait penser qu'on a de l'argent supplémentaire. Or, on a un peu moins de déficit. C'est plutôt comme ça qu'il faudrait présenter les choses, Nicolas Corry.
Moi, je pense qu'effectivement, là, on est ici dans l'ordre du symbole, dans des mots politiques. Quand on a parlé de cagnotte, ça a été tout de suite une référence à l'époque Jospin, où il y avait eu déjà ce débat-là, et donc finalement ce sont des mots qui reviennent comme ça dans le débat, sans forcément que derrière on parle de la même chose. Hein. La cagnotte du temps de Jospin, ça n'a rien à voir avec la cagnotte d'aujourd'hui.
Il paraît d'ailleurs que c'était une invention de Jacques Chirac pour mettre en difficulté Lionel Jospin, c'est-à-dire il y a une cagnotte, donc il va bien falloir du coup qu'il l'utilise. Ouais. Et ça lui avait causé certains problèmes, parce qu'il avait un petit peu tergiversé pour savoir qu'est-ce qu'il allait faire de la cagnotte à l'époque. C'était 50 milliards de francs, donc c'était quoi, un peu moins de 10 milliards d'euros
Oui, oui, c'est ça. Et en plus, à l'époque, on parlait d'une cagnotte cachée que que Bercy ne voulait pas révéler. Là, cette fois-ci, on voit bien que quand le débat est né, hein, d'un député qui a parlé au départ, il n'a pas voulu parler de cagnotte, il a parlé de bonne fortune. Et c'est vraiment l'idée de, voilà, il faut parler de ça, mais pas donner le terme cagnotte. Quoi.
C'est d'ailleurs chez vous, hein, dans les Échos, qu'il en a parlé, ce député de La République En Marche, Joël Giraud. Bonne fortune plutôt que cagnotte, alors ça change quoi?
Ça change pas grand-chose, ça change juste que effectivement, il évite d'utiliser un terme qui est maintenant piégé politiquement, effectivement, du fait de la signification et puis de la référence à la période Jospin-Chirac, hein, puisque Jospin, effectivement, avait été piégé. Il avait fini par faire un grand plan de réduction d'impôts, et au final, ça ne lui est pas forcément réussi, puisque en 2002, on connaît tous l'issue de son mandat. Donc, effectivement, là, Joël Giraud, il évite d'utiliser ce terme qui est piégé politiquement, que de toute façon, le gouvernement ne pourra jamais assumer. Pour des raisons qu'on développera sans doute économiques, budgétaires. Et donc, bah voilà, bonne fortune. C'est une façon de lancer un débat sans non plus trop le marquer du saut apparemment infamant de cagnotte.
Je suis pas sûr que le terme d'ailleurs de bonne fortune, hein, soit, comment dire, atténue vraiment.
Alors,
l'idée
bonne fortune, Joël Giraud est féru d'italien, et donc en fait c'est une traduction littérale d'un terme italien.
Anne de Guigné, vous vouliez
intervenir? Je veux dire, il parle, je crois qu'il a une ascendance italienne, il est très souvent en Italie, nous on le voit tous souvent, il est très souvent en Italie, et donc ouais, il dit bien c'est la bonne fortuna, la bonne chance, le coup de chance, il voulait vraiment dire ça.
Robert-Éric Godin, sur cette dimension piège, disons, de l'utilisation du terme de cagnotte.
Oui, parce qu'il ne faut pas confondre, évidemment, cagnotte et excédent. C'est-à-dire, il n'y a pas plus d'argent, en réalité, pour le gouvernement. Ce qui est vrai, c'est que le Parlement... Enfin, il faut qu'on regarde, il faut qu'on ait les chiffres définitifs, on ne les a pas encore lorsqu'on aura intégré les déficits sociaux et les déficits des collectivités locales. Mais pour le moment, les chiffres qu'on a du budget de l'État, on a un peu moins que ce qui avait été voté par le Parlement. Donc, en réalité, le Parlement a autorisé un déficit qui était supérieur à celui qui est actuellement, qui sera celui de la France. Donc, il y a une capacité, il y a une marge de manœuvre, on va dire, possible de ce point de vue. Mais encore une fois, c'est pas de l'argent en plus, c'est simplement de l'argent qui est rentré un peu plus, mais qui a été évidemment entre-temps dépensé et largement dépensé, puisqu'effectivement il y a un déficit.
Alors que dit le ministre de budget à propos de ces possibles marges de manœuvre, Gérald Darmanin? Lorsque nous avons un pays qui a 2200 milliards d'euros de dettes, qui emprunte chaque jour un demi-milliard sur les marchés financiers, on ne peut pas considérer qu'il y a une cagnotte cachée, et il explique que ce qui doit être fait de manière tout à fait prioritaire, voire exclusive, c'est d'aller sur le désendettement. Alors, est-ce que c'est à ça, d'abord, que doivent servir ces marges de manœuvre supplémentaires, Nicolas Corry? Alors, je ne sais pas si c'est à moi de dire au gouvernement ce qu'il doit faire.
Bah, il vous écoute peut-être, alors profitez-en.
Non, ce que je vois, moi, c'est effectivement tout un discours sur la dette qui est insupportable et qui est un discours qu'en fait qu'on entend tout le temps et qui est toujours assez... qu'il faut replacer quand même en perspective par rapport...
Pardonnez-moi, qu'est-ce qui est insupportable? C'est la dette qui est insupportable ou c'est le discours sur la dette?
C'est le discours qui dit que la dette est insupportable. Cette dette est en fait est très bien supportée actuellement par l'État français quand on voit les taux d'intérêt qui sont très bas. Et donc, du coup, il y a des marges de manœuvre qui sont possibles quand le gouvernement a une contrainte qui est cette contrainte des 3% de déficit. Et donc ça, pour l'instant, ce qu'on a vu avec les derniers chiffres, c'est que ces 3% vont être respectés. Et que donc la contrainte politique qui est d'être à chaque fois ostracisé par Bruxelles parce qu'on est le mauvais élève de l'Europe, la France va pouvoir sortir de ça. Donc après, elle peut avoir des marges de manœuvre.
Alors vous dites donc, le niveau de la dette aujourd'hui de la France, il est supportable. J'aimerais savoir si c'est l'avis de tous autour de cette table, Anne de Guigné. Le niveau de la dette, c'est quoi? C'est un peu plus de 96% du produit intérieur brut, d'après ce que j'ai trouvé.
On est effectivement près des 100%.
Ouais, 90. En fait, il monte toujours en début d'année, puis après, il baisse un peu. En fait, oui, il y a cet imaginaire du 100% qui, en fait, n'est pas un problème en soi. On peut être à 99 ou 103. C'est pas du tout ça le sujet. Le sujet, c'est les taux d'intérêt qui vont augmenter là, dans le budget, l'État a prévu que les taux à 10 ans passent à 1,80% à la fin de l'année.
Et quand les taux d'intérêt augmentent, la dette augmente.
Voilà.
D'autant plus.
Le prix de la dette, le coût de la dette, ce qu'on doit rembourser chaque fois qu'on fait des nouvelles émissions de dette, les émetteurs, il faut payer de plus en plus pour s'endetter. Du coup, évidemment, le fardeau. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des taux exceptionnellement bas, donc ça peut aujourd'hui ne pas. Enfin, ces deux dernières années, c'était pas forcément une priorité. Mais si les taux remontent 2-3%, ça va devenir. Vous voyez, aujourd'hui, le prix de cet endettement, c'est à peu près le niveau. C'est 45 milliards d'euros environ, ce qui est à peu près le budget de l'éducation nationale. Donc on peut se dire, voilà, c'est tout cet argent-là, on pourrait doubler l'éducation nationale, par exemple. Si on le voit comme ça, on se dit, c'est quand même très très dommage, c'est quand même une vraie priorité.
Donc en tout cas, profiter de ces marges de manœuvre pour faire baisser le poids de la dette,
sachant que le fardeau va être de plus en plus lourd à porter.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Renaud Honoré?
Pour l'instant, effectivement, cette année, en tous les cas encore, la dette n'est pas un problème. Le Cour des comptes a même noté qu'on devrait encore faire des économies grâce à la charge de la dette, puisque le taux qu'on a prévu sera vraisemblablement supérieur à ce qui sera à la fin d'année. Enfin, c'est ce qu'on attend pour le moment. Mais bon, à plus long terme, effectivement, avec un niveau de dette à 80, plus de 96%, il y a malgré tout un problème qui se posera un jour ou l'autre à long terme. Mais je voulais dire qu'au-delà du problème de la dette qui est celui invoqué par le gouvernement pour refuser le débat sur la cagnotte, il y a des autres arguments qui sont des arguments qui seraient plus finalement soutenus par des gens plutôt classés à gauche, des arguments plus keynésiens, qui ont trait à même la façon dont on gère en fait la politique budgétaire. La politique budgétaire, normalement, traditionnellement, on essaye de faire qu'elle soit contracyclique. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas d'accompagner systématiquement le cycle économique. Très basiquement, ça veut dire qu'en période de récession, vous faites en sorte que les stabilisateurs automatiques jouent pour que effectivement on puisse un petit peu adoucir le choc de la récession. Et à contrario, quand la croissance revient, on laisse ces mêmes stabilisateurs fonctionner pour que réduire le niveau de déficit pour n'être pas totalement dégarni lorsque la bise sera venue.
Voilà, j'allais faire l'allusion, effectivement,
et
nous, la fameuse fable, on pense à celle-là.
C'est vrai que c'est assez fascinant, on fait un débat sur la cagnotte parce qu'on vient d'avoir trois bons chiffres en trois mois. Et pour moi, c'est assez symptomatique un peu de la French touch française en matière budgétaire. C'est-à-dire que dès qu'on a un bon chiffre, on s'empresse de parler de cagnotte. Et j'ai ramené avant de venir un rapport intéressant de France Stratégie qui montrait que sur les 40 dernières années, c'est vraiment une constante totale de la France. C'est-à-dire qu'on a mené quasiment systématiquement une politique budgétaire à contre-temps. C'est-à-dire quand il fallait plutôt laisser consolider et donc réduire la dette, on faisait le contraire. Et même en période de récession, assez souvent, on menait une politique de consolidation budgétaire, c'est-à-dire de gestion, de réduction des déficits, alors qu'il aurait fallu laisser filer les déficits. Donc voilà, donc le piège aussi de ce débat sur la cagnotte, c'est d'oublier que sur le long terme, il y a quand même d'autres priorités que le court terme à prendre en compte.
Donc ça veut dire que pour vous, en tout cas, la position du gouvernement aujourd'hui, elle est plutôt vertueuse.
En tous les cas, elle justifie. Qui pourrait être soutenue par beaucoup d'économistes.
Oui. Renard Godin.
Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que oui, les taux d'intérêt vont remonter, mais ils vont remonter d'abord parce que l'inflation va remonter. Et ce qu'il faut regarder, c'est pas les taux d'intérêt, c'est les taux réels. Et c'est ça qui est important, parce que le taux d'intérêt, il rémunère aussi le risque par rapport à l'inflation. Donc aujourd'hui, on est en taux d'intérêt négatif. Il est pas certain que même si les taux d'intérêt augmentent, on passe en taux d'intérêt positif. Et même si on était en taux d'intérêt un peu positif, en termes réels, il y aurait pas de catastrophe absolue pour le moment. En tout cas, on a une Banque Centrale Européenne qui est assez protectrice de ce point de vue-là. Et donc, pour le moment, moi, je ne vois pas de risque absolu sur les taux, même à moyen terme.
Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il ne faut pas profiter de ces marges de manœuvre supplémentaires pour désendetter le pays ?
Mais le problème, c'est que si Gérald Darmanin voulait désendetter le pays, comme il le dit, il ne mènerait pas la politique qu'il mène. Il ne mènerait pas une politique de baisse d'impôts. Quand vous baissez les impôts, vous réduisez la base fiscale. Vous faites une politique contracyclique quand vous êtes en période de croissance. Donc en réalité, c'est le gouvernement lui-même qui se contredit par rapport à son discours.
Vous parlez de quelle politique de baisse d'impôts là ? De quelle baisse d'impôts ?
Les baisses d'impôts, à la limite, toutes les baisses d'impôts. C'est-à-dire à la fois les baisses d'impôts pour les ménages et les baisses d'impôts pour le capital. J'inclus dedans la suppression de l'ISF. Mais évidemment, la priorité du gouvernement a été une baisse d'impôts sur le capital et les revenus du capital. Mais à la limite, on pourrait dire, si on mène une politique réellement contracyclique, c'est-à-dire si réellement on a décidé le désendettement, le moment n'est absolument pas venu de réduire la base fiscale. Au contraire, le moment est d'engranger le maximum de recettes, de réduire au maximum les déficits et ainsi d'engager le désendettement. Mais c'est pas ce que fait le gouvernement. En fait, le gouvernement fait des choix. Il choisit tout simplement de mettre l'accent sur la défiscalisation du capital et des revenus du capital. Et d'ailleurs, il fait payer en partie les ménages, aux ménages cette politique. Et quand Joël Giraud demande un tout petit geste en plus pour les ménages, il dit « Ah ben non, pas possible, désendettement ». Évidemment, c'est une politique de Tartuffe.
Donc il y a un décalage entre le discours sur le désendettement et la réalité de la politique, qui serait une politique de baisse d'impôts, qui profiterait en plus qu'à certains, et d'abord au capital. Vous êtes d'accord avec ça, Anne de Guigné ?
Non, il y a les baisses d'impôts, elles concernent tout le monde. Après, c'est sûr que d'un point de vue politique, le gouvernement a sans doute été un peu maladroit de faire passer. Enfin, voilà, il avait toutes ses contraintes, mais il a fait passer d'un coup l'ISF et la baisse et la flat tax sur le capital. Et ce qui concerne tous les ménages, qui était la baisse de la taxe d'habitation et la bascule, qui est un peu complexe, baisse des cotisations salariales versus hausse de la CSG, qui grosso modo fait un peu augmenter les feuilles de paie de tous les salariés, ça, il l'a décalé dans le temps. Et c'est vrai que, voilà, d'un point de vue d'un discours politique...
La baisse des cotisations salariales, c'est en deux fois. La deuxième fois, ça sera au mois d'octobre,
voilà,
normalement.
Exactement.
Hein. Il y a la taxe d'habitation qui va être étalée sur trois ans. Par contre, la hausse de la CSG, c'était d'un seul coup.
Et voilà. Et les mesures flat tax et ISF étaient au 1er janvier. D'où, c'est sûr qu'il a eu, politiquement, c'était un peu risqué. Mais voilà, il a fait ces arbitrages-là. Mais les baisses d'impôts concernent tout le monde. Après, lui, le gouvernement, son choix, c'est de dire de faire des économies. De dire, on va essayer de... Pour l'instant, on n'a pas encore les arbitrages, hein, donc il faut les croire sur leur bonne foi. C'est leur fameux programme CAP 22. Justement, le Premier ministre doit, d'ici quelques semaines, voilà, nous donner... les économistes, les experts vont donner leurs recommandations et le Premier ministre ensuite donnera ses arbitrages en avril. Quelles économies ? Il a un objectif de 4,5 milliards d'ici 2020 d'économies structurelles. Et ça, c'est leur grand programme, de dire, OK, on baisse les impôts, mais on baisse aussi le train de vie de l'État. Et au final, évidemment, le but, c'est de baisser plus vite le train de vie de l'État que les impôts pour faire des économies. Parce qu'évidemment, si les deux paramètres, il faut jouer sur tous les tableaux. Et c'est vrai que là, on n'a pas encore le volet économie. Donc, on est un peu dans le flou. Il faut les croire sur parole, quoi.
Nicolas Corré ?
Moi, je pense qu'il faut aussi replacer ça dans une suite d'événements qui ne sont pas forcément maîtrisés par le gouvernement. Je pense qu'il faut se replacer à l'automne, quand le gouvernement a annoncé la réforme de l'ISF et cette fameuse flat tax. Il y a eu un grand débat sur à qui allaient profiter ces réformes et donc le budget 2018. Et donc, il y a eu on a résumé ça par le président des riches. Et parce que, effectivement, c'était des mesures en faveur des plus riches. Et ça, je pense que le gouvernement n'avait pas forcément anticipé. Donc du coup, il y a eu tout un discours qui s'est développé sur le pouvoir d'achat. Donc le gouvernement a dit, certes, OK, on a fait des cadeaux aux riches, mais vous allez voir, tout le monde va en profiter, le pouvoir d'achat de tout le monde va augmenter. Et donc là, ça a vraiment été martelé. Sauf que quand on a vu en janvier, quand les retraités ont vu qu'ils perdaient de l'argent, quand certains se sont regardés leur fiche de paye, n'ont pas forcément vu grand-chose, il y a eu des sondages qui l'ont montré, donc le pouvoir d'achat, ça n'a pas du tout pris auprès des Français. Donc on se retrouve aujourd'hui avec, dans une situation dans laquelle le gouvernement ne sait plus trop quoi faire pour vis-à-vis de l'opinion. Ils ont fait des réformes. Ces réformes, de toute façon, mettront du temps avant de voir le jour, enfin avant de produire leurs effets. Et du coup, il faut effectivement se retrouver face à une opinion qui, on l'a vu lors des dernières élections partielles aussi, et pas forcément, ne suit plus forcément le gouvernement.
Et ça vient de quoi ? Ça vient d'une mauvaise perception du message du gouvernement par l'opinion, c'est-à-dire parce qu'il y aurait peut-être un message politique qui serait pas assez clair, ou bien est-ce qu'il y a quand même pas des contradictions de fond dans la politique qui est menée aujourd'hui par le gouvernement Macron ?
Le choix du gouvernement Macron, ça a été de favoriser les plus riches dans le budget. Donc ça a été très clair. C'était au préalable, les premières réformes, c'est l'ISF et la flat tax, et pour les ménages, ce sera plus tard. Donc ça a été effectivement, c'est normal que les gens ne l'aient pas perçu. Et après, je pense que c'est aussi un débat au sein même de la majorité, qui n'a pas forcément non plus été anticipé. Et c'est là-dessus une des caractéristiques de cette majorité qu'on découvre tous les jours. Enfin, au jour, on a suivi ce débat sur qu'est-ce que c'est que le macronisme, par exemple. Les macronomics, c'est quoi exactement la pensée de cette majorité? Et on a du mal à comprendre parce qu'effectivement, il y a des gens qui viennent de la gauche, il y a des gens qui viennent de la droite. Joël Giraud, le rapporteur, venait plutôt de la gauche. Il a défendu le budget pendant toute la discussion parlementaire. Et là, tout d'un coup, on a l'impression qu'ils découvrent que finalement, c'était un budget pour les riches et qu'il fallait quand même faire quelques mesures pour les ménages. Et c'est quelque chose, effectivement, qui prend le gouvernement par surprise, qui n'avait pas anticipé.
Renan Auré ?
Je ne serais pas aussi affirmatif sur les problèmes au sein de la majorité provoqués par cette situation. Pour revenir sur ce que disait Joël Giraud dans nos colonnes, le débat, il est quand même très mesuré. On n'est pas ce qui se passait en 99. Joël Giraud, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit on a une bonne fortune fiscale et il faudrait en consacrer 80% au désendettement et 20% à des mesures concrètes sur les aides aux EHPAD et également des aides pour les régions en difficulté industrielle. On n'est quand même pas sur un débat qui enflamme la majorité. Il faut quand même pas caricaturer et tuer les choses. Il y a un problème pour le gouvernement qui est un problème surtout lié au tempo, effectivement, qui est dû d'ailleurs au fait qu'on n'attendait pas le niveau de croissance qu'on a actuellement. Le décalage dans le temps sur les cotisations, la baisse des cotisations salariales pour les salariés, elle vient du fait qu'effectivement cet été, ils ne pensaient pas que la croissance serait aussi bonne et qu'il fallait faire des économies. Comment ils allaient les faire ? Et ben, en décalant une partie de ces baisses. Et donc voilà, le niveau plus faible de croissance qui est attendu fait qu'il se retrouve effectivement avec un problème politique maintenant, qui est un problème de tempo.
Sauf qu'ils savaient bien qu'en décalant justement ces baisses, leur perception, elle serait aussi décalée. Ça, c'est pas une surprise, même si.
Et là, il y a effectivement une faute politique en parlant que de pouvoir d'achat sans penser au fait que les retraités seraient directement concernés par une baisse de pouvoir d'achat. Effectivement, ils se sont quand même lourdement trompés en termes de politique. Ceci dit, effectivement, le débat sur la cagnotte, voilà. On y tient. Là, le gouvernement, de toute façon, ne peut que dire qu'il n'y a pas de cagnotte et qu'il ne fera rien. Ça, c'est le discours. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des gestes. Et ils ont déjà commencé à en faire. On pourrait en parler. Mais clairement, le discours va rester le même. Mais derrière, il y aura sans doute des aménagements qui seront faits à la politique du gouvernement et qui ont commencé.
Alors, on va justement voir quels peuvent être ces aménagements et quels sont ceux qui ont déjà commencé. Mais si il y a aussi une difficulté à percevoir la cohérence du discours aujourd'hui de la part du gouvernement, c'est peut-être aussi parce que ce discours-là, il n'a pas toujours été le même. Rappelez-vous la campagne présidentielle, le débat de l'entre-deux-tours, Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Alors certes, on se souvient de certains moments de ce débat et pas de tous, mais lorsqu'il est question justement d'une possible amélioration de la conjoncture, voici ce que dit à l'époque Emmanuel Macron. Nous sommes le 3 mai 2017.
Si la croissance se porte mieux que ce que j'ai prévu, parce que je suis très prudent sur les années à venir, je ne fais jamais dépasser dans les hypothèses qui sont les miennes la croissance de 1,8%, j'espère qu'on pourra aller plus loin, alors je réaffecterai ce qu'on gagnera sur la baisse de l'impôt sur le revenu et donc sur les ménages.
Voilà, c'est très court. Hein. Il réaffectera sur l'impôt sur le revenu et donc sur les ménages. Qu'est-ce qui s'est passé entre mai 2017 et février 2018 pour que le discours soit aussi différent a priori, puisque depuis l'Inde, où Emmanuel Macron s'exprimait à la mi-mars, bah, il y a quelques jours de cela, hein, il disait « Nous sommes bien loin d'avoir le luxe de nous poser la question de redistribuer quelques cagnottes que ce soit, quand nous avons encore le niveau de déficit, a fortiori de dette, qui est le nôtre. » Bon, ça, c'est ce que dit tout le gouvernement. Romaric Godin.
Ben écoutez, c'est le jeu de la campagne électorale, je pense. Sur l'impôt sur le revenu, voilà, ça frappe un peu les esprits. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Ben écoutez, la politique en fait du gouvernement s'est développée. Cette politique, c'est une politique qui est centrée justement sur les baisses d'impôts pour les entreprises et les détenteurs du capital. Tout simplement parce que le gouvernement en espère des retours, voilà. Mais encore une fois, j'insiste quand même, puisque on a dit là-dessus, c'est quand même étrange de subventionner la part de la croissance qui fonctionne le mieux actuellement, qui est l'investissement des entreprises. Mais voilà. Donc à partir de ce moment-là, le gouvernement a été a fait le choix, parce que moi je ne crois pas du tout qu'ils ont c'est une maladresse ou je ne sais quoi. Ils ont fait le choix de favoriser ça par rapport aux ménages. Et donc les ménages ont servi d'ajustement parce que, je suis désolé, mais avoir une baisse d'impôt sur 3 ans, c'est pas la même chose que d'avoir la totalité de la baisse d'impôt au 1er janvier. Ça change absolument tout et c'est pas la même somme en réalité. Donc voilà, il y a un choix qui a été fait et ce choix, il ne favorise pas les ménages. Et ceux qui prennent aujourd'hui le poids du pseudo-désendettement ou de ce qu'on nous présente comme un désendettement aujourd'hui, ce sont les ménages, à la fois parce que les baisses d'impôts sont fractionnées pour eux, et ensuite parce que c'est eux aussi qui subissent principalement le coût de la fameuse politique d'économie qui va être mise en place dans la deuxième partie du quinquennat.
Est-ce que cette politique économique menée par le gouvernement, vous trouvez au moins qu'elle est cohérente, même si elle est plus ou moins bien vendue, disons, politiquement, et donc auprès de l'opinion, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a une cohérence et qu'elle gagnerait peut-être justement à être présenté dans sa cohérence globale plutôt que d'avoir justement un discours qui est peut-être en décalage avec les faits, en tout cas pour l'opinion, manifestement le moral des ménages a un petit peu baissé dernièrement, les gains de pouvoir d'achat ne sont pas ressentis comme ils devraient peut-être devoir l'être, Anne de Guigné.
Oui, moi je pense que déjà il ne faut pas trop caricaturer budget des riches, il y avait quand même des il y avait pas mal de gestes sociaux, évidemment plus petits, mais il y avait une réévaluation de l'allocation pour les personnes handicapées, pour la PAJE, vous savez, c'est pour les gardes d'enfants, pour les familles monoparentales. Il y avait plusieurs mesures comme ça. Donc voilà, il ne faut pas totalement caricaturer. Après, non, il y a un choix très clair qui est de dire aujourd'hui, le problème français, c'est que c'est des entreprises qui, certes, en ce moment, l'investissement repart, mais qui ont sous-investi pendant des années. Donc il faut d'abord soigner le paysage, le paysage industriel des entreprises
pour qu'elles puissent embaucher. Robert Godin nous dit, finalement, c'est cette part-là qui a peut-être le moins besoin d'être aidée aujourd'hui.
Ah non, mais l'investissement repart. On était tellement bas que là, on est fou de joie.
Ça fait 3 ans que l'investissement repart.
Mais par rapport à sur 10 ans,
et c'est vrai que je suis pas sûr que la baisse de l'ISF favorise l'investissement. Ça c'est une vraie question.
Ça c'est une vraie question. Ah. Non, mais ça c'est une vraie question. Moi je suis très menace là-dessus.
L'argument en tout cas de réforme de l'ISF, il était là-dessus justement. Ça va permettre de relancer l'investissement, en tout cas de favoriser l'investissement.
Juste pour aller au fond de mon raisonnement, donc je pense que la position du gouvernement, c'est de dire la meilleure façon de redistribuer du pouvoir d'achat, c'est de faire baisser le chômage et donc d'aider. Ça marche plus ou moins, mais c'est l'idée, c'est d'essayer d'aider les boîtes à embaucher et de dire que la meilleure façon des gens qui étaient au chômage, qui ont maintenant qui ont un salaire et qui voilà, et je pense que c'est leur vision, leur politique. Et du coup, politique et c'est vrai que là où il y a une faille, où vous avez raison, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'explication. Ils n'assument pas cette explication de dire il y a quand même des gros retards en France en termes de compétitivité des entreprises. On a complètement décroché depuis les années 2000. On essaye d'y remédier et expliquer aux gens désolé, on fait ces choix-là parce que notre priorité, c'est de réduire le chômage. Et certes, c'est un peu dur. Et c'est vrai que ils n'assument pas ce discours qui est un peu plus compliqué, mais ce serait peut-être plus simple, en effet, plutôt de dire votre pouvoir d'achat augmente et tout le monde remarque que pas tant que ça, ce serait plus simple, en effet.
C'était presque davantage assumé sous le précédent quinquennat avec François Hollande, avec son pacte de compétitivité notamment, en disant, voilà, nous on fait une politique de l'offre, et puis, je ne sais pas si elle était pleinement assumée, on entendait peut-être davantage, en tout cas, cette façon, cette cohérence-là, non, Nicolas Corrie?
Non, je ne sais pas s'il faut...
Essayons de sauver le quinquennat Hollande.
Le quinquennat Hollande, oui, c'est ça. Moi, c'est sur je voulais intervenir juste sur la cohérence du macronisme. Et pour revenir sur ce débat sur l'ISF, pour essayer de voir toute la séquence qui s'est déroulée, on a la suppression de l'ISF et la flat tax. C'était quand même le discours qu'il y avait derrière et qu'il y a toujours, c'est de dire cet argent, il va être redistribué à des gens qui n'en ont pas besoin, hein, des gens qui ont un fort patrimoine. Et ensuite, on pense qu'ils vont l'investir dans des entreprises, dans des petites entreprises, dans les PME, parce que c'est ce tissu-là qu'on veut voir développer. Et donc ça, c'est tout le discours qui a expliqué, qui a justifié la suppression de l'ISF.
Et ça, c'est encore un peu tôt, j'imagine, pour juger de la réalité ou pas de cet effet.
Non, oui, mais parallèlement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a supprimé une niche fiscale qui existait, qui s'appelait l'ISF PME. C'était les gens, pour défiscaliser leur ISF, investissaient dans les PME. Et bien, à court terme, les PME, aujourd'hui, ce qu'elles voient, c'est qu'il n'y a plus cet argent qui arrive automatiquement. Et donc, le gouvernement avait dit, on va créer d'autres produits financiers, des produits financiers qui vont permettre aux gens qui ont les moyens d'investir dans les PME. Et là, on est sur une longue durée, c'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien qui a été créé. Il y a eu des journées de l'investissement productif qui ont été organisées à l'Assemblée nationale. Moi, j'y ai assisté. Ces journées-là n'ont débouché sur aucune grande annonce. Donc, on a vraiment cette impression qu'on est au milieu du guet. On ne sait pas du tout où le macronisme va nous mener. Est-ce que ce cadeau aux riches va-t-il ou pas bénéficier aux PME? Va-t-il effectivement créer de l'emploi? Parce que ça a toujours été vendu comme ça. On parlait de la théorie du ruissellement. Alors le gouvernement a toujours dit non, le ruissellement, c'est pas une vraie théorie, donc on n'y croit pas. Mais derrière, quand même, l'idée, c'était c'est que cet argent, ce cadeau, doit bénéficier à l'économie française.
Et donc, là, si on vous demandait, Nicolas Corrie, de faire une série d'articles pour les jours dans laquelle série vous définiriez ce qu'est la politique économique du gouvernement, aujourd'hui, vous seriez bien embêté.
Voilà. C'est justement d'ailleurs le concept des jours, c'est de suivre sur la longue durée des idées, comme des histoires. Et là, pour le coup, je pense qu'on aura peut-être la solution à la fin de ce quinquennat. Et c'est d'ailleurs toute l'originalité, on va dire, du macronisme. C'est comme on ne sait pas le situer ni à gauche ni à droite. Pour l'instant, on a vu que c'était beaucoup de réformes de droite. Et les réformes de gauche, on les attend.
Alors on a fait jeudi dernier d'ailleurs une émission qu'on avait intitulée « La politique d'Emmanuel Macron est-elle indéfinissable ?» C'était alors sur sa politique globale avec des représentants de revues. Il y avait la revue Commentaire, il y avait la revue Esprit et il y avait la revue Multitude. Et c'est vrai qu'on arrivait aussi un petit peu à cette conclusion d'une difficulté à caractériser un petit peu ce que peut être les grandes lignes du macronisme. Et manifestement, s'agissant de la politique économique, c'est presque aussi compliqué. Renaud Honoré, c'est aussi votre cas ?
Oui, mais en fait, je vois pas très bien le lien entre tout. On est en train de parler de l'ISF, entre donc cette question de l'ISF et la question de la cagnotte fiscale qui était notre point de départ. S'il y a un problème politique autour de la cagnotte fiscale, c'est effectivement il y a quelques mécontentements qui se sont commencés à se.
Le lien, il est de se dire on a donné à certains et cette cagnotte là pourrait bénéficier au pouvoir d'achat des retraités.
Mais ce qu'on voit, concrètement, ce qui explique une partie de la baisse de popularité du couple de l'exécutif dans les sondages. C'est clairement les retraités. En tous les cas, c'est là où effectivement on voit des grosses chutes dans les cotes de popularité des deux dirigeants. Donc clairement, là, il y a eu un problème. Le gouvernement a très mal anticipé et évalué ce qu'allait être l'impact de sa politique. Mais en l'occurrence, c'était juste, on baisse les cotisations salariales contre cette hausse de CSG, pardon. Donc je pense que le débat sur l'ISF il est aussi à côté et que là, à mon avis, le gouvernement s'il doit utiliser une partie des marges de manœuvre budgétaires qui se dégagent, J'imagine qu'il réfléchit plutôt à des choses autour des retraités.
Oui, parce qu'il faut bien préciser que la baisse des cotisations, elle ne les touche pas, évidemment. Enfin, en tout cas, elle ne les touche pas. Eux, ils ne peuvent pas bénéficier.
Elle touche que les salariés, effectivement, directement.
Voilà, puisque par définition, ils ne sont plus au travail. Est-ce que, justement, vous évoquiez tout à l'heure d'honorer certaines pistes ou certaines mesures qui étaient déjà en œuvre par rapport à l'utilisation de ces marges de manœuvre. Est-ce que pour les retraités, on sait ce qui pourrait être proposé par le gouvernement?
Ah bah, on est encore au stade préliminaire, mais c'est vrai que là, on a vu renaître au sein de la majorité un débat autour d'un dispositif qui avait fait un petit peu de barouf médiatique il y a quelques années. C'était le dispositif de la demi-part des veuves qui avait été supprimé du temps de la droite et dont en fait la suppression effective était arrivée sous Hollande. Sans rentrer dans les détails, c'était un dispositif qui permettait d'avoir effectivement une réduction d'impôts pour les veuves. C'est un dispositif qui était hérité de l'après-guerre, qui avait été supprimé, et voilà, on entend la majorité des gens qui reparlent nouveau ce dispositif. Il y aura sans doute d'autres éléments, mais je pense que ouais, d'un point de vue politique, si le gouvernement doit utiliser une part de ses marges de manœuvre, ce sera sans doute en direction de cette catégorie-là, sachant que par ailleurs, il y a d'autres choses qui ont été annoncées, qui n'ont pas pour les retraités, mais quand on entend les gens du gouvernement reparler à nouveau et annoncer maintenant que les heures supplémentaires défiscalisées seront bien mises en place, c'est clairement une conséquence de la situation budgétaire, parce que cette mesure avait été annoncée par Emmanuel Macron dans sa campagne, mais elle avait été complètement oubliée dès l'élection. Plus aucun membre de l'exécutif, à part Gérald Darmanin, n'en parlait. Et puis tout d'un coup, effectivement, elle ressort du chapeau à la faveur de l'embellie budgétaire.
Il ne parle pas d'ailleurs de défiscalisation des heures supplémentaires, mais de désocialisation des heures supplémentaires. Je n'ai pas bien compris la différence. Est-ce que quelqu'un peut me l'expliquer, Anne de Guigné?
En fait, c'est simplement... la mesure qu'on a tous en tête, c'était la mesure Sarkozy liée au fameux travailler plus pour
gagner plus,
tout simplement.
Je l'avais déjà oublié, pourtant, cette formule.
C'est simple, non, mais je me disais, ça va être plus compliqué. Et lui, il y avait défiscalisation plus désocialisation. Et en fait, c'est qu'on peut à la fois, il y a de la fiscalité et des taxes et une charge sociale. Et donc, si on prend les deux, ça coûte, je crois, c'est 5 milliards. Et on peut prendre dans la première pièce, Manuel Valls, lui, était juste sur la défiscalisation, donc c'est un peu moins cher, et donc pour l'État c'est un peu moins cher, pour la personne qui fait une heure sup, il paie encore un peu, il paierait encore la part fiscale dessus, tandis que voilà, Sarkozy avait tout enlevé, donc c'est juste une question de c'est juste une question de combien ça coûte à l'État et de à la limite, s'il y a beaucoup d'excédents, si ça se trouve, il ira vers une défiscalisation plus désocialisation. Je pense que c'est vraiment une question de curseur du coût de la mesure.
Donc on est dans une politique d'ajustement là aujourd'hui, Romaric Godin.
Oui, encore une fois, on est aussi dans une politique assez incohérente parce que la désocialisation ou défiscalisation des heures supplémentaires, c'est pas une politique de soutien à l'emploi, c'est même l'inverse. C'est bien quand vous êtes en plein emploi et que donc vous devez attirer et augmenter les heures travaillées. Mais quand vous êtes, quand vous avez un taux de chômage important et que vous subventionnez les heures supplémentaires, vous favorisez pas réellement l'emploi. Et d'ailleurs, les mesures Sarkozy avaient pendant la crise était complètement à contre-courant de ce qu'il fallait faire, parce que pendant ce temps-là, par exemple en Allemagne, là pour le coup, on favorisait la réduction du temps de travail par la subvention de la baisse du temps de travail.
Ça veut dire qu'il y a il y a aussi un défaut d'évaluation finalement des politiques économiques qui seront menées, c'est-à-dire pour qu'on en soit assez régulièrement à considérer
Là, il y a une sorte de... Enfin, on l'a bien vu dans la discussion, je crois qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus, c'est que, même si on a des analyses différentes par ailleurs, c'est que là, le gouvernement a un problème pour vendre sa politique économique, et donc il cherche des rustines pour essayer de revenir sur ses pieds. C'est ça le problème. Donc, tout est bon. Je pense que la cohérence économique, elle est pas prédominante. Ce qui compte aujourd'hui, c'est d'avoir quelque chose à vendre à l'opinion qui, de plus en plus, n'adhère pas à ce projet. Voilà.
Il va falloir peut-être vendre des choses aussi dans la mesure où cette semaine, et en particulier jeudi, va être une journée de forte mobilisation avec la fonction publique, avec la SNCF et un certain nombre de revendications, notamment au niveau du pouvoir d'achat sur les fonctionnaires par rapport au point d'indice. Vous savez s'il y a quelque chose qui est prévu, qui pourrait être annoncé, ou si c'est quelque chose a priori d'exclu, Nicolas Corrie ou Renaud Honoré?
Vous qui allez souvent à Bercy pour chercher des informations, non?
Pour le moment, c'est pas vraiment la tendance, effectivement. Donc, sur le point d'indice des fonctionnaires, il y a eu un gel cette année. Il y a une discussion en cours, mais rien n'indique qu'on aille vers une ouverture des vannes. Je rappelle que pour la baisse des cotisations, pour la hausse de la CSG pendant des fonctionnaires, contrairement aux autres, aux salariés du privé, les fonctionnaires n'ont eu droit qu'à une compensation. Donc, pour l'instant, il n'y a rien qui indique des gestes spécifiques.
Eh bien, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Nicolas Corry, Renaud Honoré, Anne de Guigné et Romaric Godin. Les Jours, Les Échos, Le Figaro et Mediapart sont les titres que vous représentiez ici ce soir. Merci également à toute l'équipe du Grain. Antoine Tricot, Fanny Richet, Livia Garrigue, Antoine Dulcer et Prune Saez. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Alexandre Dang. Arnaud Laporte,
présent.
Vous êtes là, vous allez parler de littérature ce soir. C'était pour voir si vous suiviez.
Vous savez qu'on est lundi seulement.
C'est le théâtre.
Voilà,
bien sûr.
Le théâtre lundi. Mais vous ne sortirez pas de ce studio sans m'avoir donné la question du grain à moudre de demain, sachez-le.
La francophonie est-elle un instrument de domination? Francophonie avec un F majuscule.